Bonjour Aurélien Bélanger, nous parlons de votre nouveau roman à paraître dans cette rentrée littéraire, Le continent de la douceur, votre quatrième roman. Il y a cet incipit qui nous prévient, même pas en introduction, c'est vraiment même pas un vrai incipit en fait, comme un avertissement, qui nous prévient de la nature de ce qu'on va lire, qui appartiendrait au registre de l'histoire contrefactuelle.
Oui, c'était plus ou moins une demande, pas très appuyée et pénalement peu légale, mais du service juridique qu'il était bien de mettre une petite distance romanesque. Donc de la même façon qu'il écrit roman sur la couverture, il y a écrit qu'il y a des choses contrefactuelles, c'est-à-dire qu'on va reconnaître évidemment des personnages, des lieux, des situations, mais que tout ça est romanesque. Et donc c'était amusant d'écrire cette phrase et de lui donner un petit cachet mystérieux, de dire qu'en fait tout ça est possible si le Karst, le pays dont il sera question dans le livre, a vraiment existé.
Donc plutôt une protection plutôt qu'une sorte de théorie littéraire que vous seriez appropriée. Il y a un jeu en tout cas, et on le comprend tout de suite, vous venez de prononcer ce fameux nom, le Karst. Vous écrivez « Le Karst semble ainsi flotter au-dessus de l'histoire européenne ». Et puis, juste après, je vais lire ce petit paragraphe qui va un peu nous mettre dans le vif de ce lieu-là. « L'histoire drôle a été souvent racontée. C'est l'histoire d'un Karst qui raconte qu'il a été dans plus de 5 pays. « Alors tu aimes voyager ?» lui demande-t-on. « Non, je n'ai jamais bougé de chez moi. Je suis né dans l'Empire austro-hongrois en 1900. J'ai eu 20 ans dans le royaume des Serbes. Au milieu de ma vie, j'ai même été un citoyen du Reich. Puis je suis devenu yougoslave. Et maintenant que je suis vieux, pour la première fois de ma vie, je suis Karst. Mais je mourrai peut-être citoyen de l'Europe. » C'est votre invention fictionnelle dans votre roman, le royaume des Karsts, le royaume Karst plutôt.
Oui, l'idée c'était de chercher une sorte de métonymie d'Europe, ou plutôt qu'une métonymie, une sorte d'essence purifiée de l'Europe. Et qu'est-ce qu'il y a de plus européen qu'un royaume un peu perdu, disparu, qui est à la fois le conservatoire d'un monde ancien, qui est en même temps moderne, qui est évidemment blotti dans les Alpes, parce que les Alpes sont profondément centrales dans l'Europe. C'est elles qui séparent l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, cette espèce de grand schisme entre les différentes Europes, et essayer d'imaginer cette espèce de petite principauté. Et ça donnait presque l'entrée dans le roman se fait presque par l'invention de ce Karst, dont je vais raconter les 30 dernières années essentiellement, sachant qu'il a disparu longtemps, enfin, comme il est dit dans le texte. Ouais.
Mais alors, il a tout de même pour origine un lieu géographique fait un peu de montagnes, de forêts. Quand on fait une petite recherche sur Internet, on trouve qu'il y a un plateau qui a ce nom-là. C'est aussi le nom d'une sorte de roche aussi. Enfin, tout cela est très plausible, très très probable. Qui fait qu'on a envie plus que d'y croire. On sait que c'est un roman, on sait que c'est de votre propre invention, puisque pour lire votre roman, il faut tout de même avoir le réflexe d'avoir Internet sous la main, parce que c'est ça qui est jouissif, c'est se dire « Ah, ça, c'est existant, ça, ça n'a pas existé, ça, c'est tel personnage qui est plutôt sous tel nom. » Donc, c'est ça qui est aussi qui provoque une envie de continuer comme ça à découvrir le monde que vous avez créé, ces petits royaumes. Il y a cette forte possibilité que ça puisse exister. Alors ce royaume, Karst, est incarné par quelques personnages qui sont nés, qui en sont issus et qui ont envie de le faire vivre, voire même qui ont le souhait le plus fort serait de faire en sorte que ce royaume existe pour de vrai et soit légal.
Oui, je pense à ça soudain. C'est Grac qui disait que l'Italie chez Stendhal n'était pas un pays réel, c'était un pays de fiction. Donc en fait, il y a aussi un peu du Parme dans le Karst, étant donné que le Parme est évidemment une ville italienne, mais qu'elle est un peu de loin en loin, comme à l'époque sous domination autrichienne. Et qu'est-ce que c'est que cette étrange alliance entre monde germanique ou germanophone et monde italien? Donc le Karst participe de tout ça. Et j'ai imaginé évidemment le personnage chéri des lecteurs de la Chartreuse de Parme, c'est évidemment le prince Mosca. Et j'ai imaginé une sorte de Mosca féminin qui est Ida. Ida, c'est une ressortissante du Karst qui est en exil doré à New York, parce qu'en fait elle a grandi d'abord à Venise, elle est devenue une riche banquière. J'ai imaginé quelque chose d'un peu faux, d'un peu contrefactuel, que la grande banque était une banque vénitienne comme au 12e siècle. Donc elle appartient à la grande banque vénitienne, elle dirige la Venezia de New York, et c'est de New York qu'elle va un peu intriguer en intriguant de la meilleure façon qui soit, tout simplement en séduisant le l'ultime rejeton de la dynastie des Karst, qui est le prince Yann, qui est l'héritier du trône, si le lieu existait. Parce que ce que j'ai oublié de dire, et c'était aussi un point d'entrée très séduisant pour moi, c'est que le Karst a disparu dans ce pays qui a lui-même disparu. Le Karst, à un moment, était une entité yougoslave. Il appartenait à la Yougoslavie, mais il n'était même pas comme les républiques finalement autonomes, comme la Serbie, la Bosnie ou la Macédoine. Il ne figurait pas sur les cartes parce que c'était une petite enclave de secret et défense, et c'était comme les villes fermées soviétiques. Donc il y avait tous ces doubles mondes, tous ces rideaux que ça me permettait de traverser.
Et ce lieu géographique, c'est un lieu, on peut imaginer, que vous êtes, dans lequel vous êtes rendu, peut-être que vous avez fait de la randonnée, du vélo, du sport. Enfin, on peut imaginer que c'est un lieu sur lequel vous avez pu vivre.
Alors, je le connais, j'y suis pas du tout allé. Pour le situer, il y a une région qui s'appelle le Karst, mais qui est plutôt au sud, c'est plutôt vers l'Istrie. Moi, le Karst, c'est plutôt, alors ça, c'est pas du tout la même racine étymologique, je crois, mais c'est plutôt proche de la Carinthie, donc cette région du sud de l'Autriche. Donc, en fait, c'est un état frontalier entre l'actuelle Slovénie et l'actuelle Autriche, donc à la fois montagneux et sylvestre. Je le connais parce que, évidemment, la référence spontanée, c'est la Sildavie. Et comme tout le monde, j'ai regardé la grande planche d'Hergé où on voit la fusée qui décolle des Alpes pour voir exactement d'où elle décolle, quel est ce mystérieux endroit qui ressemble étrangement à la Suisse, mais aussi un peu à la Slovénie, à la Yougoslavie, voire à la Grèce, avec ses chaussures à pompons qui arboreront les Dupont. Donc c'est tout ça. Et sinon, le Karst, c'est quelque chose encore plus simple pour moi. Le Karst, j'aime beaucoup les dessins d'encyclopédie qui représentent notamment le cycle de l'eau. Et le Karst est une sorte de cube transparent dans lequel on représente la Terre en transparence, où on montre le travail de l'eau sur les sols calcaires, l'acidité de l'eau qui creuse les sols calcaires et qui fabrique ce qu'on appelle des réseaux karstiques et des systèmes karstiques. Donc parfois ils sont à la surface et ça donne des lapias, des choses très tourmentées. Parfois ils sont en profondeur et ils sont des grottes. Donc du coup, ça permettait de donner au Karst une tonalité un petit peu quasiment proche de l'inconscient, en fait. C'est une sorte d'inconscient de l'Europe, c'est la grotte européenne, c'est l'en dessous. Et donc je joue avec le Karst, comme ça, j'imagine, c'est une sorte de pierre géante qui est tombée des Alpes. Les Alpes ont quelque chose de très cristallin, de très dur. Le Karst n'a pas la dureté des Alpes, c'est autre chose.
Et alors, tout le début de votre roman, Aurélien Bélanger, se passe à New York. Et vous faites un peu de New York comme une ville européenne. C'est là où se trouve Ida Spitz, qui est une sorte de Wonder Woman de Wall Street, très, très en vue, qui est donc directrice de la banque Venezia, et qui va s'enticher et qui va faire en sorte que Jean Van Karst, l'héritier du royaume, qui est aussi un playboy, s'entiche d'elle. Ils vont faire un très, très beau couple, tous les deux, et vont graviter autour d'eux, eh bien, une sorte de mini-cour. Et dans cette mini-cour, il va y avoir forcément un universitaire, Vernunft, je ne sais pas si je prononce bien. Il va y avoir également un écrivain, Griff. Et ces quelques personnages ont essayé de rendre concret le royaume Karst. Et alors, une des manières de le rendre concret est de louer ces légendes, de faire mythe également, et de louer ses mérites. Il y a cette idée de mathématiques. Et il y a cette idée qu'il y aurait un mathématicien, un fantastique mathématicien qui s'appellerait Stanislas Gorensky, qui a un rôle vraiment très, très, enfin vraiment majeur. C'est un personnage sans doute secondaire dans le roman, mais peut-être aussi principal. Il est en filigrane de tout le livre. Et ce mathématicien Karst, qui serait donc la grande figure scientifique des Karst, serait le créateur de l'intuitionnisme. Si bien que vous, sur un roman qui s'appelle Le continent de la douceur, et dont on comprend très rapidement qu'il va, on va dire, traiter de l'Europe, on est déjà décalé à New York, et en plus, on se prend cette grande discipline scientifique qui est la mathématique, et ça commence ainsi.
Alors sur l'aspect, oui, c'était amusant. Je pense que c'est important de respecter les clichés. Donc c'est important d'imaginer, on dit souvent que New York est une ville plus européenne qu'américaine. Donc je me suis dit, c'est amusant d'imaginer que New York est à l'Europe, ce qui a pu être un moment Venise par rapport à l'Europe. La figure de la businesswoman et du prince séducteur, de la même façon, c'est un cliché. Je pense qu'il n'y a pas du tout de honte romanesque à travailler ce genre de clichés. Ils sont aussi, c'est des clichés, c'est probablement qu'il y a des choses bonnes dedans. Donc j'ai essayé d'en tirer ça. La diaspora karst new-yorkaise, je la mets en scène dans l'espèce de sous-sol crépit d'un restaurant vaguement grec, donc en l'occurrence un restaurant karst, et il y a évidemment un conspirateur, il y a un écrivain mystérieux, etc. Tout ça me parle, c'est une sorte de façon du monde qu'on rattache généralement aux romances ruritariennes, donc qui se passent dans des pays imaginaires d'Europe centrale où il y a toujours des conspirateurs, toujours des précepteurs. Donc voilà, il y a quasiment des rôles attribués. C'était amusant de les représenter à New York et comme ça me permettait en plus de ne pas aborder l'Europe directement, de la raconter de loin comme l'objet fantasmatique, notamment dans une pièce que Wernink, l'historien des mathématiques, réassemble dans la tour. Il assemble en fait tous les classiques grecs et latins, donc l'Europe devient comme ça une sorte d'antiquité rêvée dans une ancienne salle informatique. Ensuite, l'aspect des mathématiques, il y avait... C'était oui, c'est devenu. Enfin, ça a été l'un des désirs très très forts du roman, étant donné que je sais depuis longtemps, on l'exagère souvent, mais quand je faisais des études de philosophie, notamment de philosophie des sciences ou de philosophie analytique, c'était très central la question de la crise des fondements des mathématiques. Et je trouvais ça intéressant de jouer le jeu d'un point de vue romanesque. On sait à quel point le XXe siècle a été dramatique pour l'Europe, et c'était amusant et presque irrésistible d'imaginer que la catastrophe s'était déjà produite en pensée et que l'Europe naissait sur les ruines d'une question qui avait agité une vingtaine d'esprits, mais qui étaient par ailleurs les plus grands esprits de l'Europe, qui étaient Gödel, Russell et Frege et quelques autres. Et voilà, c'était imaginer que tout ça a été miné dès le début parce qu'il s'était posé une grave crise concernant la raison, dont l'une des sorties possibles était l'intuitionnisme. Ça me permettait de mélanger ça parce qu'il y a quelque chose aussi dont j'ai découvert l'existence dans cette région européenne, qu'on va dire au sens large, la péninsule balkanique. Il y a deux choses qui sont très marquantes. Il y a, ça s'applique à la Bulgarie, c'est les Sarakatsan ou Sarakastan, je ne sais pas si je le prononce bien. Grosso modo, c'est des bergers qui ont des coutumes qui sont assez peu proches des autres Bulgares. Et on imagine qu'en fait, ce serait une sorte de tribu de bergers exilés qui serait de culture grecque. Alors j'ai essayé de compiler ça avec des épicuriens et j'ai essayé d'imaginer qu'en fait, les fondateurs du karst sont des Sarakatsan de l'Ouest et sont en fait des Grecs. Pourquoi pas des disciples d'Épicure, Épicure le premier inventeur de l'intuitionnisme, enfin tout ça se goupille harmonieusement. Et l'autre terme qui est très central dans cette région des Balkans et qui est devenu extrêmement nocif et extrêmement central avec la guerre en Yougoslavie, et on le voit encore aujourd'hui avec la question du Kosovo, où les vraies racines de la Serbie sont au Kosovo, etc., c'est la question du protochronisme. Tous ces jeunes États s'inventent des histoires nationales. Et pour nous, Français, qui avons déjà parcouru cette histoire avec l'invention de Vercingétorix, etc., disons sous la Troisième République au XIXe siècle, la question du protochronisme est constitutif des identités nationales des États-nations modernes, et ça me permettait d'imaginer qu'un protochronisme s'inventait autour de Gorinsky, qui, jeune prodige mathématique dans ce petit pays, avant d'être mathématicien, est d'abord le poète officiel de ce royaume et un peu le protégé du prince, et avant d'écrire des mathématiques, il écrit du roman national. Donc ces mathématiques font partie du roman national, et ensuite, tardivement, vu que pour des raisons complexes, il va essayer d'écrire ses mathématiques en cyrillique, au moment où on désosse l'Autriche-Hongrie, les négociateurs des traités de 19, d'il y a un siècle, vont défaire l'Autriche-Hongrie, ils vont se tromper et ils vont ranger le karst, juste pour cet accident de l'histoire que ces mathématiques sont écrites en cyrillique, vont le ranger dans la Yougoslavie et pas le ranger dans l'Autriche. Et c'est comme ça qu'en fait cet endroit qui est germanophone se retrouve à dériver. Les mathématiques permettait de raconter tout ça. Moi, la base de l'intuitionnisme, en fait, je l'ai découvert dans un livre de philosophie que je tiens vraiment pour un chef-d'œuvre et que j'ai lu deux fois, que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Nécessité ou contingence de Jules Villemain, qui est un livre qui est paru aux éditions de Mich, je crois, en 1984, où il a l'idée assez géniale et très structuraliste de classer les différents systèmes de philosophie en fonction de la réponse qu'ils ont formulée à l'aporie de Diodore. L'aporie de Diodore, pour la faire simplement, est dit que c'est compliqué à formuler simplement, mais c'est ces quatre propositions qui ne peuvent pas être vraies simultanément parce que ça parle en fait de la contingence du futur, qu'il y a des propositions qui ne sont pas encore vraies ou fausses, elles deviendront dans le futur. Et parmi toutes les possibilités logiques de réfuter l'aporie de Diodore, enfin de la résoudre, l'une d'elles est celle qu'a inventée Épicure et qui a donné les sens intuitionnistes. Et l'intuitionnisme, c'est à la fois pas connu, et dès qu'on fouille un petit peu l'intuitionnisme, on découvre que Descartes est intuitionniste, que Kant est intuitionniste et qu'il y a toute une école intuitionniste. Pour le dire simplement, chose dont je suis à peine capable de faire, l'intuitionnisme, c'est l'idée que les mathématiques sont construite et que la vérité, elle n'est pas détenue de façon platonicienne en amont et qu'elle participe du processus. Et ce qui est amusant, c'est que l'intuitionnisme, en fait, Gorinsky, il est copié de Brouwer. Brouwer, c'est le mathématicien qui a défendu l'intuitionnisme, c'est un mathématicien néerlandais. Moi, j'ai supprimé Brouwer, si ce n'est dans l'Inkipit du livre, et je l'ai remplacé par Gorinsky. Ce qui est amusant avec l'intuitionnisme, c'est qu'il a une composante extrêmement psychologisante. Brouwer a beaucoup d'écrits psychologiques. Il explique vraiment que les mathématiques sont un type d'activité du cerveau et qui sont liées au sens de la durée du cerveau. C'est presque bergsonien si on regarde. Sauf que cette approche constructionniste des mathématiques, quelques décennies après Brouwer, elle va se retrouver dans l'informatique. Derrière cette histoire très charnelle de l'intuition doit être quelque chose de senti, de ressenti, c'est vraiment le sentiment des mathématiques, du mathématicien en train de se faire. Tout ça va ouvrir le champ des mathématiques automatisées, des preuves automatiques, etc. Et tout ça débouche dans l'algorithmique. Donc il y a à la fois les deux choses. C'est à la fois des mathématiques qui sont beaucoup plus vraies, beaucoup plus humaines, beaucoup plus charnelles, et qui de l'autre côté sont beaucoup plus déshumaines et qui vont peut-être infuser ce qui est ce qu'on connaît, c'est les mathématiques les plus déshumanisées qui soient, ou enfin, selon le grand cliché, qui sont les mathématiques financières.
Ouais, en 5 minutes, Aurélien Bélanger, vous venez de. Mais parce que c'est absolument prodigieux, et c'est ça qui est, dans votre roman, est un tour de force assez. Enfin, vraiment complètement même incroyable. Enfin, toute première grande partie de votre roman, je suis absolument ébloui par. Et puis, c'est ce que vous venez de raconter. C'est-à-dire que vous avez mis le doigt pour nous parler de l'Europe. Vous parlez d'un royaume carte que vous inventez quelques personnages, mais vous partez de toute une histoire qui va nous faire parcourir l'ensemble des champs disciplinaires. Et là, en nous parlant de mathématiques, en fait, à la fin, vous avez dérivé déjà sur les algorithmes et donc forcément sur l'usage mathématique que font la finance. Or, dans vos personnages, eh bien, il y a une financière, c'est Ida Spitz. C'est la grande héroïne de votre roman, donc directrice de la Banque Venezia. Ce que vous venez de nous énoncer de l'intuitionnisme et de Stanislas Gorinski, nous l'apprenons dans votre roman par un philosophe belge qui est spécialiste de Stanislas Gorinski et qui s'appelle Vernint. Il va rejoindre Ida Spitz dans la grande tour de la Banque Venezia de New York. Elle va lui aménager un bureau qu'il va lui-même s'aménager avec voilà, les grandes œuvres européennes, les grandes œuvres mathématiques. Et là, à charge pour lui, d'écrire un livre à la gloire de Stanislas Gorinski. Et à cette gloire-là, bien entendu, c'est le royaume des castes. Donc, vous arrivez à utiliser, on va dire, un concept inventé par des mathématiciens, logiciens, au début du XXe siècle, l'intuitionnisme. Et à partir de là, plutôt que, comme vous venez de l'énoncer, de parler des guerres européennes, dire déjà, voilà, dans la logique, au début du XXe siècle, il y a eu effectivement une quinzaine, une vingtaine de savants, des logiciens, des mathématiciens, qui se sont fait une sorte de guerre intellectuelle dans laquelle a surgi notamment l'intuitionnisme. Parce que cette raison logique, eh bien, ces logiciens, ces mathématiciens l'ont remis à plat, l'ont quelque part aussi détruite. On dit non, ce n'est pas la fin de la pensée. Il va y avoir le théorème, par exemple, de Gödel qui va remettre à plat. Il va y avoir un certain nombre de savants, Frege, par exemple, qui vont remettre à plat. Et donc, vous utilisez l'intuitionnisme, qui était peut-être quelque chose d'assez peu connu. On apprend dans votre livre, donc à partir de cet universitaire belge, Vernict, beaucoup de choses sur l'intuitionnisme. Et par exemple, ce grand concept du tiers exclu. Je vous cite ce tiers exclu. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux de toute éternité. Et vous dites que l'intuitionnisme rejette justement l'idée du tiers exclu. Ça veut dire qu'il y a toujours une troisième possibilité. Et cette troisième possibilité, on pourrait presque imaginer que c'est ce que vous utilisez dans votre roman, qui pourrait être le grand roman sur l'Europe. C'est pas vrai ou faux, il peut toujours y avoir une autre possibilité, une autre vérité. Et j'avais imaginé que vous utilisiez justement l'intuitionnisme pour ça. Il y a quelques petites pistes dans votre roman qui fait que vous ouvrez une troisième piste par une sorte de biais, et c'est à partir de là dont vous allez nous parler de l'Europe.
Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est une bonne lecture. En fait, je suis parti très simplement de l'idée que qu'est-ce qu'on appelle l'Europe, c'est la construction européenne. La construction européenne, c'est quelque chose dont il est dit dans les traités. C'est une phrase que je trouve prodigieusement et géniale, et angoissante et mystérieuse, pour une union sans cesse plus étroite. Donc l'Europe en tant que construction ne se donne pas comme constitution parfaite, se donne comme un projet de construction évolutif qui va devenir sans cesse plus étroit. L'idée, c'est que cette Europe, en fait, elle est peut-être dirigée contre la totalité des fondamentalismes que leur l'histoire européenne connaît bien. L'histoire européenne est pleine de fondamentalismes de l'identité, de fondamentalismes racistes, de fondamentalismes impérialistes, jusqu'au fondamentalisme de la vérité qu'on pourrait traiter chez Platon, qu'on pourrait retrouver chez Platon. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, la vérité de l'Europe, elle est peut-être dans le processus de l'Europe en train de se faire, de la même façon, et c'est un peu l'hypothèse que je formule dans le livre, la vérité des mathématiques, c'est dans les mathématiques en train de se faire, et l'histoire des mathématiques, c'est les mathématiques elles-mêmes. C'est un constat profondément non platonicien. Je ne pense pas que les mathématiques préexistent et qu'on aille puiser des théorèmes et des choses comme ça. Je pense que l'histoire des mathématiques est toutes les mathématiques et est nécessairement les mathématiques. Je le dis jusqu'à la provocation quand Fermat dit qu'il n'a pas la place de développer son théorème fabuleux, mais qu'il possède, il a trouvé son fameux théorème. Je dis que c'est une Vu qu'on l'a cru pendant 3 siècles et qu'on a fini par le retrouver d'ailleurs avec des outils dont Fermat ne disposait pas, donc il y a quand même un mystère, la preuve de Fermat existait bien. Mais je dis, moi, en fait, la solution, elle n'est pas du tout comme ça. Si pendant 3 siècles, on a cru que Fermat avait vraiment, je pense que la preuve, elle était là, elle était complète. Il y a quelque chose de procédural, de profondément historique dans les mathématiques. Et les mathématiques, au final, j'en fais une sorte de langue de. Une langue de cours, c'est la langue savante. Ça a été le français jusqu'au XVIIIe siècle. Les mathématiques sont une langue de cours, sont un système de normes et de dispositifs qui fait qu'on s'entend bien, qu'on est capable de se parler. Ce qui fait qu'en 1900, au sommet des conflits entre impérialisme allemand, anglais et français, les mathématiciens du monde se parlent bien. C'est encore évident aujourd'hui. Il suffit d'aller voir n'importe quelle communication scientifique. Moi, je suis allé voir un colloque de mathématiques financières récemment, c'est d'une douceur, enfin, il y a quelque chose, le continent de la douceur, s'il existe, il est là. Et tout ça, c'est parce que c'est profondément des normes presque parlées, et il y a quelque chose de presque voltairien là-dedans. C'est qu'en fait, on pense qu'en parlant des mathématiques, on va parler du dur, du solide, de l'immuable, et en fait, en parlant des mathématiques, on parle de la délicatesse presque mousseuse de notre civilisation. Et c'est tout ça que j'ai essayé de Je sais pas si c'est réussi, mais c'est tout ça que j'ai essayé de faire jouer ensemble, en tout cas.
Juste qu'on finalise sur cette question de l'intuitionnisme. Il y a cette fabuleuse réplique de Vernunft, justement, qui fait une leçon de mathématiques à John von Karst, qui est donc l'héritier du trône de Karst. Et voici la réponse qu'il lui fait. « Savez-vous le plus étrange, Altesse? Gorinsky ne définit jamais l'intuition, ou bien de manière provocante, et apparemment tautologique, quand il écrit que de l'intuition, on ne peut se faire qu'une notion intuitive. Mais je ne crois pas qu'on soit en face d'une tautologie. Il s'agit plutôt d'une sentence performative, une phrase qui réalise elle-même ce qu'elle énonce. On est ici au cœur de l'intuitionnisme, aux vertus créatives immenses, mais au contenu toujours fragile, suspendu à un souffle et dépendant étroitement de l'activité de l'esprit. » Et alors moi, lisant ce paragraphe, ça m'a fait penser à l'Europe, à votre sujet du livre. Je me suis dit, l'intuitionnisme, effectivement, c'est l'Europe, c'est-à-dire quelque chose qui est performatif, quelque chose dont cette phrase-là, aux vertus créatives immenses, mais au contenu toujours fragile, suspendu à un souffle et dépendant étroitement de l'activité de l'esprit. Je me suis dit, ça, c'est l'Europe.
Il y a une lecture géographique de l'Europe qui est effrayante, c'est que l'Europe n'existe pas, l'Europe c'est juste une petite péninsule de l'Eurasie, mais c'est peut-être une sorte de fabrication, une sorte de robot fractal d'autofabrication qui lance comme ça ses grands doigts articulés qui sont la péninsule ibérique, la Scandinavie, l'Italie ou les Balkans, qui fabrique comme ça, qui fabrique de façon maniaque de la différence, qui fabrique une sorte de délice à être. Et il y a quelque chose comme ça chez l'Europe qui ne tient pas. On se rend compte, c'est quasiment l'un des points de départ du bouquin, c'est pourquoi l'Empire européen n'existe pas. Il n'a jamais existé, à chaque fois qu'il a existé, il s'est effondré. Le dernier exemple en date étant le Troisième Reich, l'exemple le plus sympathique, encore plus proche, c'est sans doute la construction européenne, mais on sait très bien que ça ne sera pas un empire, parce que ça ne sera pas fédéral. Enfin, voilà. Cette espèce d'auto-création de l'Europe par elle-même, qui fait que l'Europe, dans ses pires moments, si ce n'est ses meilleurs, ça dépend du point de vue où on se passe, est capable, par une sorte d'héroïsme bravage, d'arraisonner la totalité du monde, alors qu'elle n'a résolu aucun des problèmes qu'elle se posait. Au moment même où la chrétienté éclate et sur des questions très profondes, très centrales et très actuelles, sur la question de la grâce, sur la question du libre-arbitre, sur la question de la liberté, au moment où la chrétienté éclate, l'enveloppe aussi le monde, cette espèce de bizarrerie, cette espèce d'énergie prodigieuse de l'Europe, qui est quelque chose qui ne peut que nous fasciner, au-delà de la question du bien et du mal. C'est la dynamique mondiale de ces 3 derniers siècles est européenne. Qu'est-ce que c'est que cette petite péninsule de l'Eurasie qui est devenue suffisamment folle et à la fois croyante en elle-même pour conquérir le monde, et si peu sûre d'elle-même qu'elle conquiert le monde? Les deux mouvements sont possibles en réalité.
Alors j'aimerais maintenant qu'on parle de ce deuxième personnage. On a parlé de Wernicke et de l'intuitionnisme. Donc Wernicke, on a affaire à un chercheur, à un historien, enfin un historien qui philosophe, qui va faire des recherches. Donc on est dans la partie théorique, on va dire. On est dans la partie universitaire. Et il y a ce deuxième personnage qui m'intéresse vivement, qui est Griff. Griff est un écrivain, donc on est du côté du romancier, on est du côté de l'invention fictionnelle. Et Ida Spitz, la banquière, va faire appel à Griff et lui donner les moyens d'écrire le grand roman national, puisque pour que le royaume Karst existe, il faut vanter ses mérites à la fois par son grand génie, qui est Stanislas Gorensky, donc le mathématicien, inventeur de l'intuitionnisme, et puis il faut aussi vanter ses mérites par un grand roman. Et donc c'est Griff qui va être chargé d'écrire ce roman. Pouvez-vous nous parler de ce personnage qui est un peu le pendant fictionnel de Wernicke, le chercheur?
Griff, au début, il est un peu voyou, un peu drogué. Il ressemble, j'imagine, aisément à tous ces... on peut penser à des gens comme Limonov, par exemple. Il ressemble à tous ces écrivains du bloc de l'Est qui se sont fait plus ou moins chasser de chez eux et qui sont venus à New York pour adopter une vie un peu rock'n'roll, mais teintée d'un nationalisme slave, parce que l'exotisme slave, on le voit dans les films des américains des années 80, je vois plein régime, le slave, c'est spontanément dostoïevskien, bigger than life, pas fiable, et en même temps un être profondément passionnel. Il porte, c'est le slave, c'est l'européen plus l'oriental, c'est quelque chose, c'est un personnage d'européen trop grand qui porte une part de sauvagerie venue du monde des forêts, etc. Donc Griff porte tout ça, avec aussi cette idée que l'une des bizarreries de l'Europe, c'est que il y a une quinzaine de grandes langues, une quinzaine de grandes littératures nationales, et on est toujours à la quête du grand romancier américain. Le grand romancier européen, depuis le 18e siècle, ça n'existe plus trop. Il y a eu quelques candidats, les derniers c'est peut-être Joyce et Proust, mais maintenant il y a des candidats nationaux, donc l'Europe, c'est comme ça, s'effiloche et se ramifie dans ses littératures nationales. Donc pour être un pays, il faut aussi avoir cette espèce de capacité. Je parlais de protochronisme tout à l'heure. Griff va être l'instrument du protochronisme de la princesse Ida, qui va utiliser Griff pour raconter ce pays et lui donner une existence autonome. Après, le personnage va suivre un chemin beaucoup plus dissident. On voit passer... un écrivain très important pour moi, que j'ai beaucoup lu, que je n'ai pas lu depuis longtemps, qui est Peter Handke, un écrivain qui est justement slovène, fils de nazi, une histoire personnelle extrêmement compliquée, justement écrit sur cette frontière-là. Peter Handke est de Carinthie. Le Carinthie, dans ma tête, c'est le Karst, c'est la même chose. Et Peter Handke, en plus, il vit à Paris, qui est de cette ordre-là, qui est à la fois un très grand écrivain européen qui était éminemment nobilisable et qui s'est quasiment compromis tout seul à défendre Milosevic et à défendre la cause serbe pendant la guerre jusqu'à l'indéfendable. Ensuite, ça m'amusait de faire jouer ce personnage et d'en faire une sorte de... progressivement de l'orienter vers un prince des ténèbres et quelqu'un qui communique avec les sales secrets de l'Europe. Et évidemment, il y aura une révélation finale par rapport à son existence qui me semble... c'est presque un truc de cuisine littéraire, hein, sans rien dévoiler, c'est qu'il était c'était possible de finir le roman sur un personnage et pas sur celui-ci, alors que Griff est un personnage plutôt secondaire, et j'ai voulu quand même finir sur Griff, parce que Griff est ce... on peut pas, enfin c'est une sorte de cliché de le dire, mais on peut pas écrire après la Seconde Guerre mondiale, on peut pas écrire après Auschwitz comme on a écrit avant, et donc il est obligatoire de faire communiquer, enfin si je voulais écrire sur l'Europe, il fallait qu'il y ait un personnage qui incarne d'une certaine façon la mémoire de cette Europe-là. Et Griff, jusqu'à dans ses excès absolument indéfendables, incarne la mémoire de cette Europe-là, oui.
Alors, avant justement de parcourir la deuxième partie de votre roman, avec ce personnage qui est une sorte de double de BHL, avant d'en venir là, je voulais qu'on s'arrête justement sur ces deux pieds. Votre roman, pour moi, Aurélien Bélanger, qui est, qui est foisonnant. Heureusement qu'il y a le personnage d'Ida Spitz et de John Van Karst qui vont incarner à eux deux le royaume Karst. Parce que ça nous permet justement de tenir un peu toute votre matière et d'avoir à la fois ce personnage de Wernicke, c'est-à-dire de chercheur universitaire, donc avec sa rigueur historique, et puis le personnage de Griff, qui est lui, qui incarne le côté fictionnel, donc le côté aussi légende, mythe, et écrire le grand roman Karst. Effectivement, on peut se dire qu'il a des choses de Peter Handke, quoi. Enfin, effectivement, à un moment donné, on se pose quand même la question. Je me suis aussi posé la question en me disant, est-ce que ça pourrait pas être une sorte de double de Peter Handke? Je me suis un peu intéressé à Peter Handke pour vérifier que non, mais que bon, en même temps, il y a de ça aussi, quoi. Mais que Griff a vraiment ses particularités propres en tant que personnage. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, forcément, vous, Aurélien Bélanger, qui avez l'ambition dans ce livre-là, et c'est pour ça que c'est votre livre le plus ambitieux, enfin pour moi en tout cas, qui a lu les trois précédents, eh bien, que vous incarnez à la fois Wernicke et à la fois Griff. C'est-à-dire que pour parler d'Europe, pour parler de mythes, de légendes, et pour le mieux possible peut-être en 500 pages réaliser ce qu'est l'Europe, mais en passant par plein de biais et non pas en y allant frontalement avec des gros sabots, eh bien vous êtes à la fois Wernicke et vous êtes à la fois Griff. C'est-à-dire vous êtes à la fois le chercheur universitaire dans cette rigueur historique et à la fois le romancier et à la fois le fictionnel. Et que c'est peut-être la meilleure manière de pouvoir parler d'Europe, d'avoir ces deux pieds-là, d'avoir ces deux cerveaux-là, d'avoir ces deux possibilités-là, le théoricien et le fictionnel.
Sans doute, parce qu'il y a quelque chose. Alors, Wernicke est belge, évidemment, ça a un sens, parce qu'il est belge, donc du côté des instances de Bruxelles, du côté d'un pays qui n'est pas vraiment un État-nation, du côté d'une. C'est pas du tout de la même profondeur d'être Karst que d'être belge. Il y a quelque chose que j'ai découvert vraiment en écrivant ce roman, que je soupçonnais un petit peu, c'est que les romans s'écrivent un peu avec la bêtise du romancier, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut un peu lâcher prise. Il y a tout le côté travail de documentation, savoir précisément ce qu'on veut dire, savoir ce qu'on veut aller. Tout ça, je le tiens, j'arrive à le faire parfois, si je veux raconter l'intuitionnisme. Enfin, en tout cas, j'y m'y essaie, sérieusement. Mais il y a aussi toute une partie de lâcher prise, de laisser venir des forces un petit peu mythiques. Et à un moment, j'ai une fin de chapitre, par exemple, un des personnages dit... le chapitre finit sur chrétienté, ce vieux mot de chrétienté, etc. Sorte de truc, j'avais pas prévu de le dire, et puis ça tombe bien, et puis ça veut pas forcément dire que je pense que l'Europe, c'est la chrétienté, mais ça tombe tellement bien que je l'ai laissé. Et il y a toute une part comme ça de jeu d'auto-séduction du langage romanesque qui est extrêmement important, et c'est avec ce roman que j'ai vraiment découvert que ça marchait, là, comme vous dites, sur ces deux pieds. On a besoin de s'auto-enchanter, et on n'écrit pas un roman... en ayant toujours l'intelligence distante d'un, je ne sais pas, d'un André Gide. On écrit aussi un roman en accédant aussi à sa propre bêtise. Et donc, il y a cet aspect, quand je parlais de cliché tout à l'heure, c'est important. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment découvert ça. Dans un roman, on peut laisser passer des phrases qui nous gênent, avec lesquelles on n'est pas d'accord, des choses qu'on n'est pas complètement... Parce qu'un roman n'est pas une œuvre de raison, c'est une œuvre de raison et d'imagination. Et si on est trop du côté de la raison, on rate quelque chose. Donc effectivement, il y a des choses du côté de l'imagination. Et c'est en tout cas avec ce roman que j'ai appris, je le faisais probablement avant, mais c'est là en tout cas la fois que je me suis formulé. Et je dis qu'on écrit un roman avec sa bêtise, je pense que profondément c'est vrai. On écrit un roman avec partir de sa position historique et sociale, et tout ne doit pas être absolument sous contrôle. Au moment de l'écriture, après, on contrôle mille fois, mais au moment de l'écriture, il faut un petit peu lâcher prise. Et il y a des scènes dans le roman qui ont été vraiment improvisées au moment de l'écriture, qui étaient que je me serais pas laissé passer sur un synopsis. J'avais lu le synopsis durant, j'aurais dit non, ça c'est pas possible. Mais c'est resté quand même, et c'était important de le faire, je pense.
Oui, c'est ce que vous permet le personnage de Griff, c'est-à-dire de tenir un discours, le discours de Griff, qu'on confond certainement pas avec le vôtre, bien entendu, mais ça vous permet de tenir un certain discours sur l'Europe, d'une pensée européenne, de personnes qui pensent l'Europe et qui peuvent penser comme Griff, justement. Et ça vous fait explorer aussi. C'est-à-dire qu'en donnant voix à des personnages contradictoires, contrastée et aussi extrême. Griff est véritablement un personnage extrême. Il défend tout de même des positions sur lesquelles on peut être en foncier désaccord, et j'imagine que vous-même êtes en foncier désaccord. Néanmoins, en lui faisant tenir ce discours, ça nous fait, nous, réfléchir, lecteurs, comme ça a dû vous faire réfléchir en disant « Ah, il y a cette position contradictoire à mes idées qui peuvent prendre corps et du coup qui me font aussi... arriver à une forme de pensée parce qu'il y a cette contradiction. Alors, j'aimerais qu'on en arrive à cette deuxième partie du roman qui, pour moi, commence quand surgit ce personnage de QPS, qu'on comprend être un double de BHL, parce que pour écrire un roman sur l'Europe, il fallait, j'imagine qu'il vous fallait aussi, la figure de l'intellectuel. La figure de l'intellectuel, c'est une figure éminemment européenne, bien entendu, on pense à Sartre. Mais on pense actuellement, et depuis la fin des années 70, mais peut-être encore plus particulièrement depuis la fin des années 80, à BHL et à son influence, une influence géopolitique en tout cas. On pense à la guerre en ex-Yougoslavie, mais si on prend la Libye actuellement, c'est quelqu'un qui a eu une influence. Donc le personnage de l'intellectuel, donc c'est pas BHL, il va s'appeler QPS. Et il y a une forme là de on entre dans une jubilation, puisque on se dit qu'avec ce personnage dont on reconnaît vraiment BHL, il y a la jubilation de du portrait d'un personnage public, parce que BHL est un personnage public. Et ça vous donne l'occasion de deux belles leçons de géographie. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on insiste. Vous faites cette rencontre entre le président François Mitterrand et à la fin de sa vie, et de Bernard-Henri Lévy, enfin là de QPS. Et pendant 4-5 pages, François Mitterrand va lui faire une leçon de géographie européenne. J'aimerais qu'on parle d'abord de cette leçon. Peut-être faudrait-il que j'en lise quelques extraits, parce que c'est là... où, à propos de cette guerre en ex-Yougoslavie, QPS, donc BHL, avait fait en sorte que le président François Mitterrand arrive à Sarajevo au moment du siège, mais François Mitterrand n'a pas réagi exactement comme BHL l'espérait. Et donc nous avons ce discours, et j'imagine que c'est un discours que vous avez inventé, que vous avez écrit, mais enfin, excusez-moi de vous le dire encore, mais c'est vraiment une grande puissance. Ce discours est vraiment éblouissant parce qu'on a affaire à une version de une leçon de géographie européenne.
La question, c'est sûr que c'est la question des frontières et quelles sont les délimitations extrêmes de l'Europe. Ce qui m'a rétrospectivement surpris quand je vois un petit peu le déplacement vers la droite de l'intelligentsia française sur ces 20 dernières années et sur la façon dont l'islam est devenu extrêmement central dans l'intelligentsia française, voire européenne, c'est à quel point la guerre en Yougoslavie n'a pas fait l'objet d'une telle lecture. C'est-à-dire que les intellectuels de l'époque, assez largement, défendait les Bosniaques, et c'est c'est indépendamment de ce qui s'est passé réellement, disons qu'il était possible de jouer la carte du pré-djihad ou il était possible de faire cette lecture, et de façon assez spontanée, massivement, à quelques exceptions près, les intellectuels français étaient du côté des Bosniaques et les agresseurs étaient serbes. Mitterrand incarne autre chose qui existait aussi dans l'intelligentsia parisienne, qui était plus minoritaire. Mitterrand incarne la vieille fidélité à la cause serbe qui fondait sur les contingents envoyés en 14, etc., le roi soldat. Du coup, ça me permettait de confronter ces deux histoires. Moi, ça m'amusait parce que c'est quelque chose dont je me rappelais vaguement. Je savais qu'il y avait eu des polémiques à Saint-Germain-des-Prés dans les années 90 quand j'étais adolescent. Je connaissais pas les tenants et les aboutissants. Mais d'imaginer rétrospectivement, tenez par exemple quelqu'un comme Dantec, dans ses premiers romans, met en scène des gens qui vont se battre pour la cause bosniaque. Et Dantec évolue radicalement islamophobe ensuite. Il s'est quand même passé quelque chose là, chez un certain nombre d'écrivains et d'intellectuels. Donc remettre ça en scène, ça m'intéressait. Et c'était presque irrésistible de faire jouer le rôle du méchant, en l'occurrence au président Mitterrand, et celui qui fait la leçon de géopolitique à QPS, qui est plutôt une sorte de prince de la pensée, un peu hors sol, un peu au fait de la réelle politique. Et en tout cas, il s'est construit sans. Il faut voir, et c'est important... QPS vient des nouveaux philosophes, et les nouveaux philosophes se sont vécus comme des antitotalitaires, se sont construits comme antitotalitaires, c'est-à-dire qu'en 90, leur victoire intellectuelle est totale. On oublie ça parce qu'on relit leurs écrits, on ne trouve pas que c'est des grands philosophes. Enfin, même quand on relit Fukuyama, on ne trouve pas que Fukuyama est un grand philosophe, c'est un bon politiste, mais ce n'est pas un grand philosophe. On oublie que ces gens ont vécu quasiment ce qu'a vécu Lénine en 17. Quoi. Lénine, petit théoricien exilé à Zurich, arrive et renverse l'Empire russe. Ces intellectuels antitotalitaires ont vécu la même chose. Leur triomphe en 90 était total, total. Donc une sorte probablement d'hubris, je ne sais pas. En tout cas, le mode de société pro-démocratique qu'ils avaient vanté avait gagné sous leurs yeux, le mal était mort, et donc effectivement il y a eu cette terrible épine du pied de renaissance du nationalisme et de renaissance du mal, avec la réapparition des charniers en Europe, la réapparition de choses qui ressemblaient à des camps de concentration. Donc ça a été une énigme pour la pensée. C'est un moment de l'histoire intellectuelle française que je connais mal, mais dont j'avais besoin de parler parce que ça a été tellement dit, je m'en moque même à un moment. La guerre à 2 heures d'avion de Paris, cette phrase veut tellement rien dire. Mais ça a été tellement ça, et c'est encore pire si on regarde l'Italie. L'Italie, c'est vraiment, enfin, c'est plus 2 heures d'avion, c'est 20 minutes de bateau, et on est dans le génocide. Enfin, tout ça méritait d'être regardé. Et en tout cas, c'était Moi, j'ai vraiment grandi dans les années du plus jamais ça. L'Europe était construite sur le plus jamais ça. L'Europe était vraiment née dans les ruines de l'Allemagne nazie, et sa vocation première était plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne, plus jamais la Shoah, plus jamais ça. Il y a eu quand même un déplacement au début des années 90 avec la guerre en Yougoslavie. Le plus jamais ça est devenu... c'est encore là, en fait. Et c'est la première occurrence, c'est le premier signe alarmant. Parce que je pense que profondément, la construction européenne est un messianisme. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai quasiment fabriqué le personnage de Flavio intégralement pour en faire quelqu'un qui croyait à l'Europe comme au maximum de moi-même j'ai pu y croire. Je pense que l'Europe est un messianisme. C'est en tout cas là, en Yougoslavie, que ce messianisme a rencontré son plus grand adversaire. Et que vient faire un personnage qui a fait quasiment carrière sur ce messianisme démocratique, que vient faire un personnage dans le merdier yougoslave? Et là, il y a une sorte d'énigme qui le dépasse, et à la limite qui est plus grande que lui. Ça demande, il ne s'agit même pas de le ridiculiser par rapport à cet événement. Cet événement, la guerre, pour le dire tout simplement, presque est de l'ordre de l'impensable. Il est confronté à la guerre, et c'est un vertige dont ma génération se pensait à jamais exemptée. Et donc on l'a vécu dans les années 90, quand j'avais 13 ans. La guerre est revenue en Europe. Et puis la guerre, on a changé, en fait, on a changé de climat, et là pour le coup c'est très contemporain, l'ambiance, plus personne ne hurle si on dit qu'on est dans un climat qui rappelle les années 30, ou si on est dans des climats d'avant-guerre. Donc il y a une sorte de glissement presque effroyable, en fait, qui est terrifiant. Presque le vrai sujet du livre est là, hein. C'est comment est-ce qu'on a basculé de notre vivant à un côté la guerre ne reviendra plus jamais, même en faisant des efforts intellectuels on n'imagine pas que la guerre est possible, à l'acceptation progressive de l'idée qu'en fait, pourquoi pas. Donc tout ça est articulé.
Et alors, vous en venez à ce deuxième discours, juste après, celui de Griff, de l'écrivain Griff, à nouveau contre QPS. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule, où lui va lui tenir un discours beaucoup plus, encore plus dur que le président François Mitterrand. Et c'est ce dont vous venez d'évoquer, justement, c'est le retour des années 30 en Europe.
Oui, par un acteur qui le voit de façon complètement jubilatoire, donc de façon très étrange, parce qu'il n'y a pas énormément, d'intérêt, en fait, lui. Il ne vend pas des armes, il n'a pas de vocation à prendre le pouvoir. Vaguement, parfois, il s'imagine, avec sa grande barbe, devenir un empereur d'Orient et d'Occident réunis, mais je pense pas qu'il y croit vraiment. Par contre, il jubile d'un point de vue littéraire, parce que toutes les périodes de paix prolongées ont leurs adversaires, et les premiers adversaires que les périodes de paix prolongées recrutent, on les trouve assez souvent dans le rang des écrivains. Des écrivains qui se mettent à s'ennuyer, des écrivains qui se mettent à en appeler un climat de guerre. Moi, j'ai vraiment vécu l'expérience très intimement. J'ai lu Le Rivage des Sirtes, donc un roman qui est intégralement construit sur une lassitude de la paix et sur la montée d'un désir de guerre de façon complètement fabriquée. Enfin, il n'y a aucune raison de déclencher la guerre, si ce n'est une lassitude de la paix. Et je l'ai lu en sentant monter en moi un désir de guerre, avec un désir de lassitude, de luxe de notre civilisation, je me souviens très bien. Et j'ai été le rappel brutal à la réalité fut le 11 septembre. Soudain, la guerre faisait une réapparition sur mes écrans et soudain, je me rendais compte à quel point mon désir de guerre, fallait que je change de désir parce que la guerre était quelque chose d'absolument horrible. Mais c'est intéressant de voir que c'est souvent, enfin, c'est vieille antienne, mais que les intellectuels sont souvent les premiers à trahir. Et que là, Griff est le premier à trahir, c'est-à-dire que le premier à imaginer qu'en fait la guerre peut être une expérience très sympa. Il a des termes qui sont assez parlants, hein. En notre époque où le survivalisme se développe, il parle de guerre comme camp d'été de l'Europe, comme quelque chose d'extrêmement du côté des racines, quelque chose de très plaisant, du côté du retour, du danger, de la mort, et qu'on n'est jamais si heureux, enfin qu'il a jamais été si heureux de sa vie que pendant le siège de Sarajevo. Avec cette espèce dans la boue, avec cette espèce d'inquiétude du lendemain. Elle existe, hein, cette vision romantique de la guerre. C'était important quand même de la mettre en scène. On ne peut pas juste dire que la guerre c'est horrible. Il faut dire toujours que la guerre a toujours recruté des écrivains très contents de la chanter. Donc Griff me permettait de remplir ce rôle.
J'aimerais qu'on conclue sur à la fois sur deux éléments. Votre titre, déjà, Le continent de la douceur. Ce n'est pas rien, ce titre. C'est un paradoxe. Appeler l'Europe le continent de la douceur.
Alors c'était jouable uniquement si je lui donnais un caractère ironique et le continent de la douceur est une expression qui est justement prononcée par Griff, c'est-à-dire que je prends une distance par rapport au titre. C'est le personnage le plus englué dans le mal qui appelle l'Europe le continent de la douceur. Donc je suis pas complètement dupe. D'un autre côté, d'un point de vue anthropologique, on n'en mesure probablement pas l'importance. L'abolition générale de la peine de mort. Au-delà même de la question de la démocratie, en fait, la question de l'absence de peine de mort et la question de l'absence d'armes, l'exception de la Suisse, et pour des raisons complexes, et la Suisse est en dehors de la Constitution européenne d'ailleurs, il n'y a pas d'armes en Europe et il n'y a pas de peine de mort. Le saut anthropologique me semble déjà considérable. On est dans la promesse. C'est pas grand-chose, parce qu'on dira la peine de mort, ça tue pas beaucoup de gens, c'est pas central. En fait, si, je pense que la promesse de douceur de cet endroit est inouïe dans le monde. Beaucoup plus que les États-Unis de la conquête de l'Ouest, l'Europe est le continent messianique. Dans ce refus de la douceur, dans ce refus de la violence politique, dans cette institutionnalisation du refus de la violence politique qui est incarnée. Enfin, on peut retourner toute la chose, l'Europe de Bruxelles, et dénoncer toutes les façons qu'on veut. C'est un mode de gouvernance, si je ne sais pas, même si on imagine les pires lobbies du monde, etc., c'est un mode de gouvernance doux, de quelque façon qu'on regarde. Je le dis un moment, c'est l'Europe est du côté des règlements qui s'appliquent aux choses et aux hommes, et du côté de la douceur, plutôt que du côté des lois. Et dans les lois, on imagine toujours des jugements de Salomon, des trucs où, pour finir, potentiellement, les hommes sont tranchés en deux. Là, il y a quelque chose qui s'est fabriqué en Europe. Donc cette antiphrase, je la porte, j'essaie de la porter sur les deux côtés. Je pense que c'est vrai. La promesse d'Europe est une promesse de douceur. Ouais. Et puis son échec est tellement considérable. Enfin, c'est là où le mal est vraiment sorti de la terre et a accompli ses pires ravages. Donc évidemment, on peut pas l'entendre de façon non ironique. Donc il y a cette ambiguïté. Ouais. Et moi, j'ai vraiment cru. Enfin, je dis tout le temps, j'ai l'impression d'être de m'auto-flageller en tant qu'idiot en disant ça. J'ai vraiment cru à la fin de l'histoire. Vraiment très sincèrement. Énormément de mal à me départir de cette confiance profonde que j'ai dans l'avenir de l'humanité, pour une raison très simple, c'est que j'ai grandi en Europe au moment où c'était ça qui était mis en scène. Donc je sais que c'est bête, je sais qu'il y a un retour permanent du tragique, j'ai néanmoins cru que le plus jamais ça était la vraie forme des institutions européennes, et c'est qu'à ça qu'elles servaient. Alors que les États-Unis racontent toujours qu'en fait, il y a une lucidité plutôt républicaine, mais il y a une lucidité pour le mal sur la présence des rapports de force. Et les États-Unis se sont toujours mis en scène comme un empire romain, en fait. Ils obtiendraient la paix par la guerre, il y aurait des bases dans le monde entier, etc. L'Europe a tenté une autre carte. Alors la question étant évidemment, est-ce que l'Europe a tenté cette carte? C'est l'hypothèse de Robert Kagan, par exemple, son petit pamphlet fameux. Est-ce que l'Europe a joué la douceur parce que n'ayant plus leadership du monde, elle avait que ça à jouer comme carte? Peut-être, probablement, mais il est aussi possible qu'elle l'ait fait sincèrement.
Et ma dernière question portera sur vous, créateur de romans, Aurélien Bélanger. C'est votre quatrième roman, après La théorie de l'information, L'aménagement du territoire, Le Grand Paris. On voit qu'il y a eu une étendue, c'est-à-dire que soudain, on passe à l'Europe. Et puis, je trouve que de vos quatre romans, celui-ci est sans doute le plus ambitieux, peut-être aussi le plus complexe, parce qu'il fait appel à de très très nombreuses disciplines, notamment la mathématique, qui est assez peu utilisée par les romanciers, sans doute par mes connaissances. Il y a aussi beaucoup de géopolitique, beaucoup de réflexion sur l'économie, sur la finance, et bien entendu la géographie et l'histoire. Vous, comment vous percevez ce parcours de quatre romans qui sont à peu près tous de la même taille, hein. Vous êtes tous toujours vers les 470 pages. Donc je pense que vous devez imaginer que c'est l'épaisseur qu'il vous faut pour faire prendre corps à chaque fois à des personnages ou à des lieux. Comment vous percevez ce parcours? Vous êtes encore jeune. Je pense que nous serons amenés à nous revoir pour vos prochains romans. Vous êtes aussi très travailleur. C'est la réflexion que je m'étais faite. Ces quatre romans sont quand même enchaînés assez rapidement. Ils sont volumineux. On pourrait parler bien entendu de la qualité d'écriture aussi, qui appelle aussi de très nombreuses réécritures, j'imagine, pour certains passages. Et puis là, il y a une densité d'informations, de documentation. Alors, comment vous percevez votre parcours ?
C'est une lutte secrète entre le désir de continuer toujours à faire des gros livres et le sentiment qu'un jour ça va casser et que j'aurai la flemme et que ça sera trop dur. Parce qu'en fait, c'est très dur écrire un roman, ça prend beaucoup d'années, c'est entre, grosso modo, 3 ans. Et sur les 3 ans, on n'a évidemment pas des satisfactions à chaque seconde de l'écriture. Donc il y a des moments de dépression qu'il faut franchir comme ça. Donc le roman est une sorte de gros viaduc avec des piliers qui s'effondrent. Donc il faut continuer. Pousser le tablier comme ça, indépendamment de la faiblesse des pylônes, et puis à la fin on touche le bord. Là il y avait l'idée que les trois romans faisaient peut-être une trilogie sur la France, les trois premiers. Il y avait une sorte d'intermède entre les deux qui était une petite pièce de théâtre qui s'appelait Rodin sur le tunnel sous la Manche et qui annonçait peut-être le glissement, et que là je changeais d'échelle, c'est ridicule, mais je changeais d'objet, en tout cas. Donc là, ça allait être peut-être des objets plus mondiaux. Je me méfie beaucoup du gros roman monde, mais derrière le continent de la douceur, la logique, ça serait quand même de parler peut-être d'autres parties du monde. Moi, mon hubris littéraire, elle est très simple. Je crois que c'est... Étienne Gilson qui dit ça sur Dante, c'est la synthèse de l'état des connaissances d'Europe occidentale au XIIe siècle. Moi, mon hubris, elle est là, je veux faire ça. J'y arrive pas, et puis ça m'échappe, et puis je bricole, et puis je retente le coup, et puis je replonge. Enfin voilà, mon idéal, il est là. Ce que je veux faire, c'est ça. Je trouve insupportable qu'il y ait ne serait-ce qu'un atome de la réalité, bon, pas la réalité, je vais pas tout raconter, mais un atome de la réalité intellectuelle, en tout cas de mon époque, qui ne se trouve pas dans un roman. Évidemment, j'y connais rien en mathématiques, je parle des mathématiques, je ne veux pas, j'aimerais bien aller du côté de l'astronomie, j'y connais rien en astronomie, je connais même pas les lois de Newton, j'aimerais bien aborder la question de l'astronomie dans un prochain livre. C'était ça dès le début, hein. À un moment, ça m'était devenu insupportable de rien connaître aux ordinateurs et j'ai écrit la théorie de l'information. Donc il y a quand même une réaction comme ça de... Déjà, quand c'est trop complexe, je suis trop malheureux, donc il faut que j'écrive quelque chose pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et puis derrière, il y a l'idée que si le roman existe, s'il a une valeur quelconque, tout doit y être. Et tout doit y être, pas sous une forme encyclopédique, parce que c'est trop facile et c'est de la triche. Sous une forme, ça doit être un moment, les grandes questions philosophiques, c'est le côté, je sais pas, Thomas Mann faisait ça parfois, c'est que les grandes questions philosophiques, elles doivent rencontrer la question de la personnage. À un moment, la question de l'existence de Dieu, elle est belle dans le duel de la montagne magique parce qu'elle implique deux personnages. Voilà. Que les grandes questions métaphysiques, je pense qu'il n'y a pas plus charnel que les grandes questions métaphysiques, il n'y a pas plus jouissif que les grandes questions métaphysiques. Et je ne me vois pas créer des personnages qui sont pas traversés par ça. Donc c'est comme ça que je vois la suite. Après, c'est est-ce que Dieu me donnera la force, parce que c'est un peu c'est fatigant, quoi. Mais pour l'instant, je suis en pleine forme.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger.